Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du lundi 21 juillet 2014, en direct de Washington. Bagassi Koura et Anne Alverson, bonjour Anne.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, en Libye, près de 50 personnes ont été tuées dans de violents combats autour de l'aéroport de Tripoli. C'est aujourd'hui que s'ouvre le forum de Brazzaville pour tenter de ramener la paix en Centrafrique. Et certains ont déjà donné le ton.
C'est aux anti-Balaka qu'on va demander pourquoi tout ça en République centrafricaine. Pourquoi ils ont commis toutes ces exactions. C'est à eux de nous expliquer et c'est à nous maintenant de leur donner la réponse.
Vous entendrez Abakar Sabone, leader du mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice. Au Burkina Faso, les partisans de Blaise Compaoré, eux, tendent la main à l'opposition.
Cette main que nous tendons, si cette main est acceptée, c'est la sortie de crise. Et nous disons la conquête personnelle du pouvoir, les luttes partisanes, tout ça c'est bien beau. Mais dans un environnement sous-régional et mondial tourmenté, il faut faire très attention. Ne pas lâcher la proie pour l'ombre.
Voilà, il faut faire très attention. Plusieurs mois après sa fuite du Bénin, Angelo Kousou veut retourner au pays pour se relancer en politique.
Je n'ai pas peur de Yaïboli, c'est plutôt lui qui a peur de moi. Il a peur de moi parce qu'il est surpris par mes ordonnances. Il s'est trompé sur mon âge et pensait qu'il avait affaire à un laudateur, à un griot.
Voilà, vous entendrez longuement le juge béninois Angelo Kousou. Et puis plus de 120 Palestiniens sont morts dimanche dans le pilonnage par l'armée israélienne d'une banlieue de Gaza. Tous ces titres et bien d'autres, mais pour l'instant, le journal.
Près de 50 personnes ont été tuées en Libye, où de violents combats ont continué hier autour de l'aéroport de Tripoli. Depuis le 13 juillet, des islamistes essaient de déloger des brigades de Zenten qui contrôlent l'aéroport depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Idriss Fall.
Al-Gilani Al-Daresh, un responsable de la sécurité, a déclaré à l'AFP qu'il y a eu hier des échanges à l'armes lourdes avec des obus de mortier, des lance-roquettes et des chars de combat. L'aéroport de Tripoli est fermé depuis le 13 juillet. Une alliance de miliciens islamistes essaie de chasser les brigades de Zenten qui contrôlent le site depuis 2011 sur fond de lutte d'influence entre libéraux et islamistes. Les combats ont poussé l'ONU à évacuer sa mission et la délégation de l'Union européenne en Libye a souligné hier sa grande préoccupation et exhorte toutes les parties à la retenue et au dialogue. Ces affrontements ravivent les craintes d'un conflit plus large alors que le pays attend toujours la proclamation des résultats des législatives du 25 juin.
L'Égypte a promis hier de punir les auteurs de l'attaque contre un point de contrôle militaire qui a tué 22 soldats, l'une des plus meurtrières contre l'armée depuis plusieurs années, Ishakaba.
Abdel Fattah al-Sissi, le chef de l'État égyptien, a décrété 3 jours de deuil national. Dans un communiqué hier au Caire, la présidence a affirmé que ce crime haineux ne restera pas sans réponse et que tous les auteurs d'actes contraires à la loi recevront la punition qu'ils méritent. 22 soldats ont été tués et 4 blessés samedi. Un tir au lance-roquettes avait provoqué l'explosion d'un dépôt de munitions dans une zone désertique proche de la frontière avec la Libye. Cette attaque est la plus meurtrière visant des gardes frontières depuis plusieurs années. En août 2012, des assaillants armés avaient abattu 16 gardes frontières égyptiens à la frontière israélo-égyptienne. Le Caire s'est inquiété publiquement ces derniers mois de la recrudescence du trafic d'armes et du passage de combattants djihadistes en provenance de Libye voisine où milices et groupes armés islamistes ont pignon sur rue, notamment à Benghazi.
Au moins 2 personnes ont été tuées hier soir dans un faubourg de Mombasa, deuxième ville du Kenya. Vers 20h30 heure locale, des gens à moto ont abattu 2 personnes et en ont blessé 2 autres dans le quartier de Soweto à Likoni, a déclaré à l'AFP le chef de la police du département de Mombasa, Robert Kitour, sans pouvoir dire s'il s'agissait d'un acte criminel ou terroriste.
En Somalie, les ONG ont à nouveau sonné l'alerte. Seule une aide urgente peut éviter une catastrophe liée à la sécheresse, mais les fonds manquent toujours. Le 20 juillet 2011, l'ONU avait déclaré en état de famine plusieurs régions de la Somalie. Il y avait eu plus de 250 000 morts.
En Afrique du Sud, le procès de 20 Congolais accusés de complot visant à assassiner le président Joseph Kabila s'ouvre aujourd'hui à Pretoria. et 17 mois après leur arrestation. Ils risquent plusieurs années de réclusion.
Le forum de Brazzaville s'ouvre aujourd'hui pour tenter de ramener la paix en Centrafrique. Plusieurs anciens chefs rebelles et leaders politiques sont déjà sur place. Mais la plateforme de religieux à Bangui, des membres de la société civile avaient souhaité que cette rencontre se tienne plutôt dans la capitale centrafricaine. Sur les objectifs de cette réunion, Idriss Fall a joint à Brazzaville Abakar Sabone. Il est le leader du mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice.
Les objectifs primaires, c'est le retour à la paix et puis la cessation des exactions sur la population civile musulmane centrafricaine.
Comment parvenir à la paix en Centrafrique alors?
Effectivement, c'est pour cette raison que nous sommes retrouvés ici à Brazzaville. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. C'est aux Antilles, à la CACOM, va demander pourquoi tout ça en République centrafricaine. Pourquoi ils ont commis toutes ces exactions? C'est à eux de nous expliquer et c'est à nous maintenant de leur donner la réponse.
Est-ce que Michel Djotodia va participer à cette réunion?
Je pense pas. Il ne peut pas se déplacer à Brazzaville.
Pourtant, vous l'avez remis à la tête de la Séléka, non?
Ils l'ont remis à la tête de la Séléka, mais moi, je ne fais pas partie de la Séléka. Je n'ai jamais été Séléka. Quand Séléka prenait le pouvoir, moi, je suis encore dans le gouvernement de Bozizé.
Voilà, Abakar Sabone, leader du mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice, joint à Brazzaville.
Selon l'AFP, 200 militaires maliens ont quitté Bamako dimanche pour le Maroc pour une formation contre le terrorisme et l'extrémisme religieux. Ils ont été précédés dans ce pays par 400 de leurs collègues partis en début d'année pour une formation contre le terrorisme et l'extrémisme religieux, a affirmé un haut responsable militaire malien. Par ailleurs, l'AFP rapporte que 100 imams maliens formés au Maroc dans le même cadre sont rentrés samedi à Bamako. Un total de 400 autres imams sont attendus prochainement au Maroc.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plus de 120 Palestiniens sont morts ce dimanche dans le pilonnage par l'armée israélienne d'une banlieue de Gaza. C'est la fête de cette journée la plus sanglante depuis le début du conflit, Henri Francisca.
Tôt ce matin, les services de secours ont annoncé la mort d'au moins 34 autres Palestiniens à Gaza, tués dimanche, s'ajoutant à ceux déjà comptabilisés. Selon l'AFP, le pilonnage sanglant de Chejaïa, situé non loin de la frontière israélienne, a également fait quelques 4000 blessés. C'est le bombardement le plus meurtrier depuis la guerre de 2008-2009 dans l'enclave palestinienne. Pour l'armée israélienne, la journée de dimanche a été noire également, avec 13 soldats de la brigade d'élite Golani tués. Le bilan des militaires morts dans l'offensive monte à 18, un nombre jamais vu depuis la guerre du Liban en 2006. L'armée israélienne a aussi comptabilisé au moins 55 blessés. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a entamé une tournée dans la région pour tenter de mettre fin au conflit qui a déjà tué 469 Palestiniens. Le président américain Barack Obama a indiqué que son chef de la diplomatie, John Kerry, allait se rendre au Caire ce lundi pour rechercher un cessez-le-feu immédiat.
Et ajoutons que le Conseil de sécurité des Nations Unies a exprimé tard dimanche soir sa grave préoccupation devant le nombre croissant des victimes du conflit à Gaza et réitéré son appel à cesser immédiatement les hostilités. Dans une déclaration lue par le président du Conseil, à l'issue de 2 heures de consultation à huis clos, les 15 membres appellent au respect des lois humanitaires internationales, notamment sur la protection des civils.
En Syrie, de violents combats se sont poursuivis hier dans le champ gazier de Shaer. Pour la 3e journée consécutive, l'armée syrienne a essayé de déloger les djihadistes de l'État islamique. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus de 270 personnes ont été tuées par les djihadistes lors de la prise de ce champ gazier dans la région de Homs.
Paris, Londres et Berlin ont menacé la Russie de nouvelles sanctions si le président Vladimir Poutine n'obtient pas des rebelles un accès libre et total au site où s'est écrasé le Boeing 777 qui assurait la liaison Amsterdam-Kuala Lumpur avec 298 personnes à son bord. Hier soir, le président Poutine a promis son entière coopération au premier ministre néerlandais Mark Rutte pour que le corps des victimes et les boîtes noires de l'avion puissent être récupérés. Un des chefs des insurgés, Alexandre Borodaï, a déclaré dimanche qu'ils avaient trouvé certains matériels qui pourraient être des boîtes noires et a dit être prêt à les remettre aux experts internationaux. Citant des diplomates, l'AFP affirme que le Conseil de sécurité devrait adopter cet après-midi une résolution réclamant des séparatistes pro-russes un accès libre et sécurisé au site du crash de l'avion malaisien. Voilà pour le journal. Merci à Anne Alberson. Il est 5h40 en temps universel. Il est donc 1h40 ici à Washington, direction le Burkina Faso. Le parti de Blaise Compaoré, le Congrès pour la démocratie et le progrès, et ses alliés du Front républicain, qui regroupe une cinquantaine de partis, ont entamé une tournée dénommée Caravane de la paix et de la cohésion. Le lancement de cette caravane a donné le ton de leur nouvelle option, à savoir tendre la main à l'opposition et à la société civile pour un dialogue de sortie de crise entre pro-référendum et anti-référendum. Zoumana Wonogo est notre correspondant à Ouagadougou.
C'est depuis Gawa, au sud-ouest du Burkina, que le parti de Blaise Compaoré et ses alliés, regroupés au sein du Front républicain, ont lancé ce qui est désormais dénommé « Appel de Gawa ». Écoutons son contenu avec Michel Ouédraogo, le porte-parole.
« Appel de Gawa ». Nous, membres du Front républicain, réitérons notre appel à la classe politique et aux forces vives au-delà des différences, à s'associer au Front républicain pour une relance du dialogue démocratique au Burkina Faso, à privilégier l'intérêt national pour la promotion d'actions de tolérance et d'acceptation mutuelle, à consolider les valeurs et les acquis républicains.
Dans quel état d'esprit le Front républicain a-t-il lancé cet appel au dialogue? Maître Herman Yamego, le co-président, explique.
Cette main que nous tendons, si cette main est acceptée, c'est la sortie de crise, c'est la mise qui est sauvée. Et nous disons la conquête personnelle du pouvoir, les luttes partisanes, tout ça c'est bien beau. Mais dans un environnement sous-régional et mondial tourmenté, il faut faire très attention, ne pas lâcher la proie pour l'ombre.
Au parti présidentiel, le CDP, l'on se dit prêt au dialogue et à la concertation. On écoute Assimi Kouanda, le secrétaire exécutif du CDP.
Pour ce Burkina que nous aimons tous, il faut dialoguer, il faut discuter, il faut se concerter. Si on se concerte, on trouvera des solutions. Si les solutions n'arrivent pas par cette concertation, nous avons la Constitution qui nous donne également d'autres voies pour départager les points de vue. Nous sommes disposés et nous sommes prêts. Maintenant, nous n'obligeons pas les uns et les autres à répondre puisque nous avons un juge suprême qui est le peuple.
Si les politiques s'accordent à sauvegarder la paix, quelle attitude les jeunes, souvent utilisés contre cette même paix, doivent-ils avoir? Suivons Romaric Yen et Basile Emma.
Nous les jeunes, là, on peut préserver la paix, on doit se parler. Pour ne pas sortir dans la rue, manifester, casser les quoi, des choses que nos parents ont construites pour nous. Je suis prêt à avoir ce comportement pour que la paix règne dans ce pays.
J'aime la paix. Pour que la paix règne, il faut que nous les jeunes, nous respectons les lois. On doit conserver ça. Faire ce qu'on nous demande, c'est tout. Travailler pour qu'il y ait la paix.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Plusieurs mois après sa fuite du Bénin, Angelo Houssou se lance en politique. Le juge béninois attend toujours que sa demande d'asile soit étudiée par les autorités américaines, mais il affirme d'ores et déjà qu'il rentrera au Bénin avant la présidentielle de 2016. Nicolas Pinault a recueilli les motivations du juge Houssou, ici même dans le studio de La Voix de l'Amérique.
J'ai compris que je suis investi d'une mission. Et pour aller au bout de cette mission, il faut que je suive régulièrement ce qui se passe dans mon pays. Et je suis en train de me préparer à mener une vie citoyenne plus engagée, à retrouver mon droit à la parole et à exercer mon devoir de contribuer à l'amélioration de la qualité de la gouvernance dans mon pays.
Allez-vous vous lancer en politique?
Oui, qu'est-ce que vous appelez entrer en politique? Parce que si la politique doit être analysée comme un raccourci pour s'enrichir sur le dos du peuple, ça ne m'intéresse pas. Mais en revanche, si la politique doit être considérée comme un idéal, comme la façon de servir son pays, de se sacrifier, alors je m'engage en politique et je peux vous dire que je veux m'engager en politique. Et mon engagement en politique va être une façon de redonner confiance aux Béninois.
Allez-vous créer votre parti? Allez-vous rejoindre une formation politique déjà existante?
Je ne vais ni créer mon parti politique, et peut-être rejoindre un parti politique déjà existant, mais je ne veux pas rentrer déjà dans les débats de partis politiques parce que le Bénin a des problèmes de développement. Le Bénin n'a pas besoin nécessairement des hommes politiques. Le Bénin a besoin des bâtisseurs. Et je veux être un bâtisseur, moi. Et aujourd'hui, vous n'avez aucun opposant déclaré comme tel contre le système de Yahi Boni. Alors que tout le monde sait que Yahi Boni est en train de conduire le pays dans le gouffre.
Et vous, avez-vous peur de Yahi Boni?
Je n'ai pas peur de Yahi Boni, c'est plutôt lui qui a peur de moi. Il a peur de moi parce qu'il est surpris par mes ordonnances. Il s'est trompé sur mon âge et pensait qu'il avait affaire à un laudateur, à un griot. Mais il s'est trompé, c'est plutôt lui qui a peur de moi, je n'ai pas peur de lui.
Et si vous souhaitez changer les choses, pourquoi ne pas rentrer au Bénin?
Oui, je compte rentrer au Bénin et je travaille déjà pour ça, parce que je ne ferai pas la politique à l'extérieur. Il faut que je rentre au Bénin, rencontrer les citoyens, mais le devoir m'appelle et mon pays m'appelle. Et pour ça, je suis en train de préparer aussi mon retour.
Après le départ de Yahi Boni?
Non, pas après le départ de Yahi Boni, justement. Je dois rentrer dans mon pays pour aider les citoyens à rester vigilants par rapport au départ de Yahi Boni. Parce qu'en réalité, il faut qu'on se dise la vérité. Yahi Boni ne veut pas partir. Et il faut qu'on l'y aide.
Serez-vous candidat à la prochaine présidentielle?
Je crois qu'en 2016, je remplirai les conditions pour être candidat aux élections présidentielles. Mais je ne pourrai pas vous l'affirmer tout de suite. Je crois que c'est encore précoce d'en parler. Mais ce de quoi je suis sûr, c'est que mon pays peut compter sur moi quant à ma participation à une gouvernance de qualité, à un développement durable.
Voilà, c'était le juge béninois Angelo Housseau, au micro de Nicolas Pino.
La Voix de l'Amérique au Bénin, sur Fraternité FM à Parakou.
Toujours en politique, une catégorie de citoyens sera exclue aux prochaines élections en RDC. Il s'agit particulièrement des jeunes qui ont atteint l'âge de la majorité civile après les élections de 2011. Ces jeunes ne participeront pas aux élections municipales, urbaines et locales prévues en 2015. Le point avec notre correspondant Primo Pascal Rudaïgua à Goma.
Les prochaines élections en RDC est une continuité du processus électoral débuté en 2006 et 2011. Et c'est pour respecter les prescrits de la loi électorale en République démocratique du Congo, indique Raphaël Akilimali, secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale indépendante au Nord Kivu.
Nous n'aurons pas ici à faire recours à une quelconque révision du fichier électoral. Mais néanmoins, il s'agira là d'une fiabilisation de listes électorales. Et ici, on n'aimerait pas changer les règles de jeu, étant donné que c'est justement les arriérés qu'on est en train d'apurer pour ne pas aussi modifier ce que nous appelons le coefficient électoral. Il doit demeurer le même.
Les jeunes ayant atteint l'âge de la majorité civile après les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs de 2011 déclarent qu'ils ne se laisseront pas exclus de la vie politique de leur pays. Ils affirment qu'ils vont remuer ciel et terre pour accéder à leur droit de vote.
Ils doivent nous laisser voter sur les mêmes fichiers, ça ne dérange pas. Mais dire que les jeunes gens qui n'ont pas de carte et n'iront pas aux élections, ça c'est vraiment contre la démocratie.
Je dirais que c'est injuste parce qu'on dit à l'âge de 18 ans, une personne doit normalement voter. Et lorsqu'on nous prive de ses droits, c'est déjà injuste. On a aussi le droit d'aller voter.
Les jeunes qui ont 18 ans, aujourd'hui, ils ont l'ambition de voter. Alors quand ils sont privés de ne pas voter, là donc, ils ne participent pas à la politique de la nation. Les jeunes qui ont 18 ans, ils ont le droit vraiment de voter.
La procédure électorale amorcée par la CENI est biaisée, déclare Gauthier Muhindo Misona, président de la Société civile urbaine de Goma.
S'il faut dire qu'il faut épurer les arriérés électoraux et qu'il faut commencer par les élections municipales, nous on demanderait plus qu'on commence par les élections provinciales. Donc renouveler cette assemblée provinciale, le gouverneur, le Sénat, ça serait prioritaire qu'organiser les élections municipales. On va mettre en place des institutions, mais qui ne vont pas fonctionner. Vous voyez comment l'Assemblée provinciale fonctionne difficilement. C'est comme une institution attachée au gouvernement provincial. Pourquoi créer les conseils communaux? Ces conseils seront installés et vont faire la même chose qu'à l'Assemblée provinciale. Il n'y aura pas d'indépendance et par-dessus tout, ces institutions seront budgétivores. C'est de demander à la CENI de repenser ses stratégies, voir comment reprendre un calendrier électoral qui répond aux réalités du pays et au contexte actuel.
Le calendrier électoral de la CENI en RDC prévoit les élections municipales, urbaines et locales en 2015. Ce calendrier est toujours contesté par les partis politiques de l'opposition et quelques acteurs de la société civile congolaise. Goma, Primo Pascal Rudaïgua, La Voix de l'Amérique.
Agriculture à présent en Afrique de l'Ouest, à Dakar au Sénégal, la zone des Niaï est en danger. Cette zone qui privilégie la culture maraîchère est sur le point de disparaître du fait du morcellement des terrains cultivables de plus en plus utilisés à des fins d'habitation. Les autorités en charge de ce secteur sont conscientes que la disparition des Niaï serait catastrophique si l'on sait que 80% des produits frais consommés à Dakar viennent de ces terrains. Plus de détails avec Djeneba Sedouba.
La zone des Niaï de Dakar est en danger. Cette bande étroite d'une longueur de 180 km produit 80% de la production horticole sénégalaise. Les Niaï assurent l'approvisionnement de l'agglomération dakaroise en produits frais. Bara Cissé de la coopérative agricole Samamomel à Bambilor.
Il s'agit, n'est-ce pas, d'un domaine de 25 km² dont les trois quarts sont exploités. Nous avons dénombré 1042 vergers et fermes avicoles. Et à l'intérieur, il y a des milliers d'emplois. Les femmes s'activent autour, n'est-ce pas, de ce domaine et nos employés viennent, n'est-ce pas, de toutes les régions du Sénégal. Donc, c'est un pôle d'excellence agricole. Il est rare, je crois, de trouver dans le pays 10 km² mis en valeur comme ce domaine-là.
La principale difficulté des Niaï, c'est le morcellement continu et ravageur des terres. Une véritable menace à l'activité agricole au niveau des Niaï. Massaïr Gueye de l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole.
Et le domaine sur lequel nous sommes appartient à l'Institut sénégalais de recherche agricole. Mais comme vous le voyez, il y a une superficie d'environ 75 hectares ici qui a été lotissée en habitation à notre insu. Ce qui fait qu'il y a un empiètement très grave au niveau de notre station de recherche qui repose sur un titre foncier. Nous avons un programme de mise en place d'une grande collection nationale fruitière, également de parcelles de démonstration horticole, maraîchage, arboriculture, fruitière, floriculture, mais c'est sur cette étendue qu'on devra le faire, mais on ne peut plus le faire.
La zone des Niaï menacée, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural tire la sonnette d'alarme. La disparition des Niaï serait catastrophique pour Dakar, selon Papa Abdoulaye Seck.
La disparition de la zone des Niaï va avoir incontestablement comme conséquence directe une hausse vertigineuse des prix des fruits et légumes, va avoir comme conséquence aussi une dégradation de l'état nutritionnel des populations, l'effondrement des revenus provenant de l'horticulture. C'est pourquoi le président de la République a instruit à l'ensemble des services administratifs de tout mettre en œuvre afin que nous préservions la zone des Niaï. Ce que j'ai constaté, c'est une urbanisation sauvage et galopante qui n'est pas de nature à favoriser la matérialisation des objectifs que le gouvernement du Sénégal fixe au secteur horticole.
Le gouvernement sénégalais s'est fixé comme objectif une autosuffisance en oignons à l'horizon 2016 avec une production de 350 000 tonnes et la relance des exportations horticoles qui passerait de 60 000 tonnes actuellement à 150 000 tonnes. Un objectif qui ne sera pas atteint sans une zone des Niaï protégée. Djeneba Sedouba, Dakar, pour la Voix de l'Amérique.
Washington, la Voix de l'Amérique. À présent, les sports. On commence par du football. Match aller du troisième tour éliminatoire de la CAN 2015. Toutes les équipes qui recevaient ont gagné à l'exception de la Tanzanie, tenue en échec à Dar es Salaam par le Mozambique, 2-0. À Kampala, l'Ouganda l'a emporté 2-0 face à la Mauritanie. Même score pour le Botswana qui a battu la Guinée-Bissau également 2-0. 2-0 pour la Sierra Leone face aux Seychelles. Le Lesotho a battu le Kenya et le Rwanda est tombé au Congo, Congo-Brazzaville donc, 2-0. Et enfin, le Bénin a battu le Malawi 1-0. En Côte d'Ivoire, toujours en football, la SEC Mimosa et le CW San Pedro, vainqueurs des demi-finales samedi et dimanche, joueront la finale de la Coupe de Côte d'Ivoire prévue le 6 août. La SEC Mimosa, tenant du titre, a battu lors de la première demi-finale samedi le Sporting Club de Gagnois 1-0. Et le CW Sport San Pedro, champion de Côte d'Ivoire, a défait le Stella Club 2-1 dimanche. C'est la troisième fois que les deux équipes se retrouvent en finale. La SEC Mimosa s'était imposée à deux reprises, 5-0 en 1999 et 1-0 en 2005. En football toujours, le TP Mazembe et le club africain de Tunis ont fait match nul 1-0 samedi à Souche. Un match amical à l'ouverture du score de Salif Koulibaly, les Tunisiens ont répliqué en fin de match par Tidjani Belaïde sur penalty. L'Algérie a un nouvel entraîneur. Le bureau fédéral de la Fédération algérienne donc de football a officialisé le samedi 20 juillet la nomination du Français Christian Gourcoff à la tête de l'équipe nationale. À partir du 1er août prochain, il prend la succession du Bosniaque Vahid Halilhodžić, Parti en Turquie, donc, Christian Gourcoff a dirigé pendant de nombreuses années l'Orient Football Club en Ligue 1 française. Le tirage au sort du 9e championnat d'Afrique féminin qui aura lieu en Namibie du 11 au 25 octobre prochain a eu lieu ce samedi. Dans le groupe A, on aura Namibie, Zambie, Nigeria, Côte d'Ivoire. Et dans l'autre groupe, le groupe B, donc l'Afrique du Sud, Cameroun, Algérie, Ghana. Et puis enfin, en basketball, l'équipe de Saint-Louis Basketball Club a remporté pour la 4e fois consécutive la Coupe du Sénégal de basketball dames en battant Dakar University Club, le Duc, 63-61 lors de la finale disputée hier dimanche à Dakar. Après les sports, on passe à la musique avec Roger Muntu. Bonjour Roger.
Bonjour Bagassi. Même si le couple tente de garder la face, rien ne va plus entre eux. Beyoncé et Jay-Z pourraient attendre la fin de leur tournée pour annoncer la fin de leur couple, selon un message qu'ils ont posté sur le site Instagram. On écoute Beyoncé ce matin dans Love on Top.
Alors Roger, leurs problèmes ont commencé depuis que la chaîne de télévision TMZ a dévoilé la vidéo montrant Solange Knowles en train d'attaquer Jay-Z dans un ascenseur le 5 mai 2014, n'est-ce pas?
Oui, Bagassi, c'est effectivement depuis ce jour-là que les choses ne vont plus bon train. La carapace du couple Beyoncé et Jay-Z semble être définitivement craquelée. Il faut dire aussi, Bagassi, que Beyoncé et Jay-Z réussissent toujours à garder la face malgré les situations qu'ils traversent. Et pour combien de temps encore? I don't know.
Beyoncé dans Love on Top. Merci Roger.
Derrière Bagassi, nos salutations à Faïssa à Bamako.
Roger Muntu que vous retrouvez chaque jour dans RM Show à partir de 20h temps universel. Enfin donc notre édition. Merci à Anne Alberson pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction Bagassi Kura à Washington. Bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.